9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Les Français, beaucoup de Français ne croient plus dans leurs institutions. Ils font de moins en moins confiance à leurs élus. Ils doutent des statistiques officielles. Et pour un tiers d'entre eux, la politique leur inspire du dégoût. Crise morale, politique, intellectuelle d'une ampleur sans précédent. Défiance mesurée dans une enquête édifiante et passionnante, celle du baromètre annuel du CEVIPOF, le centre d'études de la vie politique dont le directeur Martial Foucault sera notre premier invité dans un instant. Et puis dans « C'est arrivé cette semaine », deux autres regards sur cette crise inédite. Delphine Horwiller, femme rabbin devenue grande voix du judaïsme libéral, nous explique comment le rejet des élites en arrive à se transformer parfois en haine anti-juive. Elle publie « Réflexions sur la question antisémite ». Et puis Patrick Rambaud, l'écrivain qui ne se lasse pas de raconter nos monarques dans des chroniques façon grand siècle, nous présente maintenant Emmanuel le Magnifique, prince solitaire qui a pris la vie dans les livres et qui est en train de devenir Emmanuel le Réprouvé.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Il faut qu'on se réveille. On est au bord du précipice, et ça, il faut bien qu'on se le mette dans le tronc.
Je peux dire une chose.
Le capital, tu viens de le dire toi-même, le capital, c'est foutu.
Ah oui, ça, c'est fini.
Bon, la société de consommation, c'est foutu. Les voitures, c'est foutu. La cinquième, c'est foutu.
Donc, qu'est-ce que c'est la cinquième?
La République, imbécile.
Lino Ventura, dans L'Aventure, c'est l'aventure, film de Claude Lelouch de 1972. Parce qu'il faut bien sourire quand tout paraît foutu. Bonjour Martial Foucault.
Bonjour.
Professeur des universités, vous dirigez le CEVIPOF, qui est le centre de recherche de Sciences Po Paris et le laboratoire de référence en sciences politiques. À ce titre, vous produisez depuis 2009 un baromètre de la confiance politique, la confiance valeur cardinale de toute démocratie représentative. C'est donc la 10e vague que vous avez publiée hier. Elle a été menée par l'Institut Opinionway au mois de décembre, dans les 10 jours qui ont précédé Noël, auprès d'un large échantillon de plus de 2000 personnes, avec des résultats spectaculaires et alarmants. Mais non, tout n'est pas foutu. Dites-nous d'abord, Martial Foucault, ce qui n'est pas foutu aux yeux d'une majorité de Français. Qu'est-ce qui inspire encore confiance ?
Alors, il faut chercher attentivement, parce que quand même, le constat est assez alarmant. Je dirais qu'il y a peut-être deux éléments qui peuvent nous rassurer pour l'avenir. Tout d'abord, malgré le contexte, les Français croient encore en leur démocratie. Hein, c'est-à-dire qu'on leur pose différentes questions et on voit bien que le régime de démocratie représentative, malgré toutes ses faiblesses, leur convient globalement. Et d'ailleurs, ce qui me fait dire qu'on parle beaucoup de crise de la démocratie représentative, ce que cette enquête révèle encore mieux que toute autre observation, c'est que c'est davantage une crise des pratiques de cette démocratie représentative, oui, que la crise d'un régime.
Donc, mais même s'il y a une demande de démocratie directe, mais on va y venir, on n'est pas dans une société tout de même de défiance généralisée. On fait confiance à ceux qu'on connaît, qui vous sont proches, à votre élu local aussi, à votre maire, c'est important de souligner,
oui,
Martial
Foucault. On a un paradoxe français qui est assez saisissant, et il est vrai depuis 10 ans. C'est-à-dire, autant les Français manifestent beaucoup de défiance vis-à-vis de leurs représentants, surtout nationaux, voire même européens, c'est moins vrai au niveau local, mais ils ont un niveau de confiance qu'on qualifie d'interpersonnel, c'est-à-dire toutes ces relations avec soi-même. La confiance en soi, elle est très élevée, la confiance dans son entourage familial est très élevée, les voisins aussi, donc le lien de proximité lorsqu'il existe, et c'est pour ça qu'ils ont confiance avec leur maire, le maire de leur commune, eh bien ça résiste globalement à un contexte, quelle que soit la conjoncture, on voit qu'il y a un ressort très très fort de confiance interpersonnelle.
On fait confiance aussi aux hôpitaux, aux PME, à l'armée, à la police, à l'école, à la sécurité sociale, tout ça ce sont des institutions évidemment importantes, et les Français, enfin une majorité de Français fait très peu confiance, même si les chiffres sont stables. Aux syndicats, aux banques, 27%, aux médias, 23%, et aux partis politiques, 9%, 9% seulement de confiance aux partis politiques.
Oui, et sur les 10 dernières années, sur les partis politiques, on a toujours été à ces niveaux très très bas, voire même abyssaux, c'est en moyenne 10 à 13%. Au meilleur des 10 dernières années, ouais, on avait atteint 13%.
Vous avez testé aussi pour la première fois les réseaux sociaux, surprise, l'immense majorité des gens s'en méfient.
Oui. Seulement 13%, c'est la première fois que l'on
confiance
testait
seulement,
cet
ouais.
item,
ouais.
13% de confiance, ce qui est un chiffre, je dirais, peut-être rassurant, parce que cette idée qu'on serait rentré dans un monde de post-vérité, cette idée qu'il y aurait même d'ailleurs une post-démocratie et que les réseaux sociaux seraient ce vecteur pour pouvoir alimenter un degré de méfiance vis-à-vis de, à la fois, une certaine élite qui diffuse de l'information, qui mentirait, qui cacherait des choses. Ben, on voit que l'immense majorité, ça veut dire quand même plus de 87% des Français, se méfient des réseaux sociaux.
Oui, mais en même temps, Martial Foucault, les chiffres officiels sur les performances économiques, le chômage, sur la délinquance, sur l'immigration, eh bien une majorité de Français n'y croient pas.
Oui, tous les chiffres, produits par les services de l'État, la statistique publique, on voit qu'il y a... Il y a un niveau de défiance, presque ahurissant.
Oui, bah c'est un gros problème pour le débat public quand même.
C'est effectivement un gros problème. Et ce sont des éléments que l'on peut peut-être associer à ce qu'on vient de dire sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il n'est pas rare, et souvenons-nous, lorsque le passage à l'euro, le chiffre de l'inflation, on disait « mais non, c'est impossible ». Au quotidien, on observe plutôt une augmentation forte des prix. Donc il y a un vrai décalage entre le sentiment observé au quotidien sur un certain nombre de données, que ce soit le chômage, la délinquance, mais aussi le réchauffement climatique, vous l'avez dit, et puis la réalité objectivée et qui crée aujourd'hui ce décalage. Et c'est là où, finalement, la parole publique, la parole politique doit se saisir de ces questionnements, parce que sinon, ça veut dire que les termes d'un débat public sont totalement biaisés si on a une partie de la population qui ne croit pas en ce que produit les services de l'État en termes de connaissance de différents enjeux de politique publique.
Absolument. Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po. On marque une pause avant de voir ce que veulent ces Français qui ne croient plus en grand-chose.
Europe 1.
7 arrivé cette semaine continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Avec le professeur Martial Foucault qui dirige le CEVIPOF, Centre d'études de la vie politique française. Une vie politique en crise profonde, on l'a dit, c'est ce que montre le baromètre annuel que vous avez publié hier avec des Français qui éprouvent à l'égard de la politique de la méfiance, 37% voire du dégoût, 32%, c'est un chiffre en hausse de 7 points en un an. Quand on leur demande si les responsables politiques se préoccupent de ce que pensent les gens comme vous, comme eux, la réponse est non à 85%. Et quand on les interroge sur l'utilité des partis politiques ou des syndicats, la réponse est non à 53%. On n'a pas besoin des partis ou des syndicats pour exprimer nos demandes. C'est l'idée même de démocratie représentative qui est en cause, Martial Foucault. Oui, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure.
Non, je pense qu'il y a une forme de cohérence. C'est-à-dire que quand je dis qu'il n'y a pas une crise de la démocratie représentative, mais plutôt de ses pratiques, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français considèrent que ceux qui les représentent font preuve de très très peu d'empathie, ne sont pas en mesure d'exprimer, de transformer en projet politique leurs demandes sociales. Et la crise des Gilets jaunes démontre toute la difficulté, enfin on le voit au quotidien, toute la difficulté à essayer de formuler une réponse politique adéquate par rapport à une demande. Mais on pourrait même aller plus loin, parce que je dirais que les mots que vous avez employés, dégoût, méfiance... 2% seulement des Français ont du respect vis-à-vis de la politique. Donc on voit bien que la confiance politique est totalement au laminoir aujourd'hui. Donc restaurer cette confiance politique, c'était les mots employés par Emmanuel Macron. Il nous avait indiqué qu'il voulait créer un choc de confiance. Le choc de confiance, on ne peut pas seulement le décréter, ça ne tombe pas du ciel. Il faut que à la fois la parole publique et que l'engagement et l'agenda de réforme économique, politique, sociale, soit cohérente avec une demande sociale qui, je crois, aujourd'hui, a été très très mal appréciée par l'exécutif.
L'idée de référendum, de consultation directe sur des grandes questions, voire sur des projets de loi, cette idée-là est plébiscitée dans votre étude,
oui, elle est, Martial Foucault. Elle est très, très largement plébiscitée. 70% des Français souhaitent le recours au référendum sur les questions les plus importantes. Alors, il faut toujours se méfier d'un tel chiffre, parce que on n'a pas en France une culture référendaire comme on peut observer en Suisse ou on peut parler de la Californie également. Ce qui m'intéresse beaucoup derrière ce chiffre, on peut observer que ça dépasse largement tous les clivages sociaux, clivages politiques. 70%, je dirais qu'il y a deux types de Français qui souhaitent le recours massif au référendum. À la fois, je vais les qualifier les post-matérialistes, c'est-à-dire ceux qui ont une exigence très très forte vis-à-vis de la démocratie, aller un peu plus loin, plus vite, sur des questions du bien commun, l'environnement, l'écologie, et puis aussi les laissés pour compte de la modernisation, ceux pour lesquels finalement le référendum, c'est une voie pour pouvoir lutter, contester aujourd'hui les élites. Et ces deux groupes, laissés pour compte et les post-matérialistes, je dirais, se rejoignent sur très très peu de choses au plan social et économique, mais ont un certain idéal démocratique qui, bien sûr, fait écho à ce que l'on a beaucoup parlé de ce référendum d'initiative citoyenne, qui n'est pas tout à fait la même chose que le référendum tel qu'on l'a posé dans cette enquête.
Deux choses encore dans votre étude, Martial Foucault. D'abord, l'idée que la fracture politique recouvre pour une partie la fracture sociale, c'est-à-dire que les plus défavorisés sont ceux qui expriment le plus de défiance, bon, ce qui n'est pas une surprise. En revanche, vous n'avez pas vu, vous, de fracture territoriale dans les résultats que vous avez obtenus, encore une fois, sur un vaste échantillon de plus de 2000 personnes.
Non, cette idée qu'il y aurait deux ou trois Frances, rurales, métropolitaines ou périurbaines, si on reprend la thèse du géographe Christophe Juilly, n'est pas vérifiée dans l'enquête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y aurait pas un séparatisme géographique ou territorial. Et d'ailleurs, quel que soit sur les éléments de confiance vis-à-vis des élus locaux ou d'autres institutions, non, il n'y a pas de différence. Là où il y a quelque chose qui, je crois, doit nous alerter, c'est qu'on a peut-être un peu simplifié à l'excès cette idée que les métropoles concentreraient toutes les formes de capital économique, culturel, social, et puis que la France des champs serait le lieu où l'ensemble des laissés-pour-compte aujourd'hui d'une France mondialisée se retrouverait. Non, je crois que c'est faux, et on le trouve et on le confirme à travers les questionnements qu'ont notamment sur ces enjeux de gilets jaunes. Ça va bien au-delà du pouvoir d'achat dans ces territoires dits abandonnés. C'est des questions aussi de santé, de services publics.
Bien sûr.
Et ça, finalement, on en a très très peu débattu jusqu'à présent.
Il y a enfin dans votre étude des questions politiques classiques qui montrent que l'opinion n'évolue pas sur les grandes questions, sur les grands sujets. En revanche, la perception des leaders politiques a bougé en un an au profit d'une seule, en réalité.
Oui, alors effectivement, Marine Le Pen sort moins abîmée de cette enquête.
C'est la seule à avoir regagné de la confiance chez les électeurs en un an.
Oui, deux points de confiance gagnés par rapport à l'an passé,
qui avaient
perdu. Mais vous voyez, dans l'enquête, on observe aussi qu'on peut regarder cela de manière, positive, mais ça veut dire que aussi pour Marine Le Pen, 75% des Français n'ont pas confiance en Marine Le Pen. Donc, je peux être prudent
je parlais de dynamique. Pour ceux qui veulent aller plus loin, les résultats de ce baromètre de confiance ont été largement publiés par Le Figaro hier et ils sont disponibles sur le site de Sciences Po, sciencespo.fr. Vous allez sur la page d'accueil et vous cliquez sur la photo de Martial Foucault. Merci Martial Foucault d'être venu nous parler de votre étude ce matin.
Europe 1.
Dans un instant, Delphine Horviller, l'une des seules femmes rabbins de France, on parle non plus seulement du rejet mais de la haine et de la haine antisémite qui ressurgit encore une fois.
Europe 1.
Vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
Bonjour Delphine Horviller.
Bonjour.
Le temps est à la haine, pas seulement au mépris ou aux invectives. La haine s'exprime parfois publiquement, à visage découvert et même dans des paroles officielles. Elle se répand sur les réseaux sociaux, elle s'entend dans des slogans de manifestations. On la voit inscrite sur des murs ou dans des effigies promises à la guillotine. C'est d'abord, avant de parler spécifiquement d'antisémitisme, sur ce climat général que j'ai envie de vous entendre, êtes-vous comme d'autres inquiète ou effarée par ce climat de haine et comment l'expliquez-vous ?
Oui, je suis très inquiète par ce climat de haine et par la façon dont parfois on s'y est habitué. Alors on s'y était habitué sur les réseaux sociaux, bizarrement, on ne savait même plus trop quoi en dire quand elle se déversait sur les réseaux sociaux à visage découvert, parfois même avec des gens qui ne cachaient pas leur nom. Mais on a l'impression que là, tout à coup, elle est passée du virtuel au réel. Moi, bien sûr, je m'intéresse beaucoup à la question de l'antisémitisme, c'est le sujet de mon livre, mais je crois que de façon générale, l'antisémitisme, la haine contre les juifs et la haine générale se tiennent la main. C'est-à-dire que c'est pas séparable. En réalité, on se rend compte que quand la haine déferle dans une société, elle va s'attaquer à des marqueurs traditionnels qui représentent bien souvent l'autre, ces figures d'altérité. Ça commence par là et puis très très vite ça s'élargit parce qu'on est tous l'autre de quelqu'un.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi ce climat un terrible échec pour tous ceux qui essaient de promouvoir l'idée du collectif ou du bien commun, syndicat, association, religion, c'est pour ça que je vous en parle.
C'est un échec pour tous ceux qui essaient de construire des ponts, tout simplement, je crois. Il y a quelques années, j'avais dit que je rêvais d'organiser à Paris un dîner de ponts. Un dîner où on pourrait se retrouver sur des ponts, sur les ponts de cette belle ville. Aujourd'hui, c'est troublant parce qu'on voit ce qui s'y passe ou ce qui s'y est passé samedi dernier sur certains ponts de Paris. Voilà, c'est l'échec de ceux qui veulent construire des ponts et la victoire de ceux qui veulent construire des murs. On assiste en tout cas à des murs, littéralement, c'est même plus des allégories aujourd'hui ou des métaphores. Des murs de plus en plus hauts, de plus en plus épais. Et tout ça est lié aussi, à mon sens, à quelque chose qui a commencé il y a des années, qui est le repli identitaire. Le propre de ces moments de repli identitaire, c'est des moments où les gens s'imaginent qu'ils vont pouvoir définir clairement qui ils sont en décontamination de l'autre. Comme si l'identité, elle avait quelque chose à voir avec me débarrasser de tout ce qui est étranger en moi, dans mon nom, dans mes frontières, sur mon territoire, etc. Et donc, je trouve que cet élan de repli identitaire, nécessairement très très vite, il se nourrit de haine et de colère, parce que de plus en plus, pour se définir, on a besoin de se définir contre quelqu'un.
Même si l'expression du mouvement des Gilets jaunes n'apparaît pas spécifiquement, particulièrement identitaire, et même assez peu, mais en revanche, il y a de la concurrence et du ressentiment, oui.
Oui, puis je crois surtout que le mouvement des Gilets jaunes, il ouvre une boîte de colère, et quand on ouvre une boîte de colère, on ouvre une boîte de haine. Et quand on ouvre une boîte de haine, en réalité, très très vite, il faut être hyper vigilant sur les marqueurs traditionnels, ou on va dire les victimes ou les cibles traditionnelles de cette haine, surtout comme, et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, quand il est question de colère contre des élites, entre guillemets, ou contre le pouvoir, il faut être hyper vigilant à ce avec quoi ces mots résonnent dans une psyché ancestrale et notamment dans la psyché antisémite.
Le discours anti-élite, voire la haine donc contre les élites, débouche pour une part sur de l'antisémitisme. C'est ça que vous pensez, Delphine Horviller?
Oui, alors bien sûr, c'est important de le préciser. Je ne crois pas que c'est ce qui résume le mouvement et on l'a suffisamment dit, mais le fait qu'à sa marge, il y ait eu ces expressions et qu'elles étaient parfois un peu trop tolérées, qu'il n'y ait pas eu des réactions vives à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes contre ces pancartes, contre ces quenelles et autres horreurs en réalité, doit mettre la puce à l'oreille de tout un chacun. Véritablement, quand on commence à attaquer la question des élites, du contrôle, du pouvoir, de qui possède l'argent, la finance et que sais-je encore, il faut être hyper vigilant parce qu'on a ouvert là la boîte de Pandore ancestrale et traditionnelle d'autres haines, et particulièrement de la haine antisémite. On a toujours associé dans la rhétorique antisémite les juifs au pouvoir et à l'argent et que sais-je encore.
Ça veut dire qu'il y a une forme de tolérance à ces paroles ou gestes antisémites. Il y a eu, vous avez cité des incidents qui ont pu se produire. Il y a eu aussi des incidents publics sur des lieux de manifestation, dans le métro de Parisien, qui n'ont pas suscité de réaction.
Oui, je crois que ce à quoi on assiste, c'est des haines hyper locales, souvent. C'est-à-dire, en fait, qu'on pourrait presque appeler des micro-manifestations de haine. Pour ce qui est, par exemple, de manifestations antisémites, la plupart des gens autour de moi témoignent pas d'attaques au quotidien, mais d'être confrontés à des micro-manifestations de la haine. C'est-à-dire, effectivement, se promener dans la rue et voir une croix gammée et entendre une insulte au détour d'une cage d'escalier. Voilà, c'est finalement des micro-manifestations, et c'est extrêmement difficile d'en parler parce que en parler immédiatement fait entrer certains dans une forme de psychose, comme si cela disait tout de l'état de la France ou d'un antisémitisme systémique qui serait partout. Donc ça ne dit pas tout de l'antisémitisme, bien sûr ce serait une erreur de le penser, mais ça ne dit pas rien non plus. C'est-à-dire que ça contribue à créer une ambiance particulière où beaucoup de gens se sentent menacés dans des micro-moments de leur existence, par des micro-manifestations qui disent à la fois tout et rien d'une situation générale.
C'est un événement particulier qui a été l'un des déclencheurs de la rédaction de votre livre, Delphine Horviller, Réflexion sur la question antisémite. C'est une tuerie épouvantable, celle de l'école Ozara Torah en mars 2012. Où, je le rappelle, des enfants ont été assassinés, tués de sang-froid parce qu'ils étaient juifs. C'est l'absence de réaction, d'indignation générale ou qui vous trouble encore aujourd'hui?
Jusqu'à aujourd'hui, je crois que quelque chose est resté comme coincé, mais je ne suis pas la seule à en parler ainsi, à travers de la gorge, pour beaucoup d'entre nous, d'essayer de comprendre comment il est possible qu'au moment où cet horrible assassinat dans une école, où un petit garçon, entre autres, une tétine encore dans la bouche, se fait assassiner devant son école en tenant son papa par la main, ne mette pas la France entière dans la rue. Moi, ce qui m'étonne, c'est finalement a posteriori, parce que comme beaucoup, sans doute, j'ai été sidérée dans l'instant, c'est que a posteriori, ce qui m'étonne, c'est qu'on ait pu alors invoquer des justifications, des explications qui nous réconfortaient les uns et les autres. Certains ont dit c'est l'importation des tensions proche-orientales, d'autres ont dit ce sont des simples tensions intercommunautaires, juives ou musulmanes, et que sais-je encore. Et il y a quelque chose d'obscène à l'évocation, en réalité, de ces justifications, comme si on avait été incapable de mettre un mot, de mettre un nom et de penser comment, comme ça a toujours été le cas à travers l'histoire, le passage à l'acte antisémite est toujours la vitrine, l'annonce, le précurseur d'un passage à l'acte haineux dans toute une société. Parce que, comme toujours, l'antisémitisme, c'est le marqueur d'une faillite d'un groupe, d'une faillite nationale. Et en ça, et je l'ai dit souvent, c'est pas le problème des Juifs. Bien sûr que c'est le problème des Juifs éventuellement dans leur quotidien. Mais c'est d'abord et avant tout le problème d'une nation.
Je rappelle, même si ça n'excuse ou si ça n'explique rien, qu'on était à ce moment-là en pleine campagne présidentielle, que la campagne a été suspendue quelques jours, qu'il y a eu des indignations politiques et des cérémonies assez fortes, mais effectivement pas de, comment dire, de soulèvement,
de
grandes réactions populaires. Et je veux citer au moins le nom d'une victime, Myriam Monsonego, pour qu'on n'oublie pas le visage innocent de cette fillette de 8 ans que le tueur a attrapé par les cheveux pour l'abattre d'une balle dans la tempe. Votre livre, Réflexion sur la question antisémite d'Erfine Horwiller, on en parle dans un instant.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec notre invitée Delphine Horwiller, rabbin, madame la rabbin, doit-on dire, comme le titre aime le magazine du Monde dans un papier qui vous est consacré ?
Il y a tout un débat entre madame le rabbin, madame la rabbin, madame la rabbine. Ça pourrait donner lieu à toute une exégèse talmudique, pratiquement, cette réflexion sur la féminisation. Moi, j'ai pas de religion particulièrement sur cette question.
C'est bien. Et vous n'êtes pas nombreuses, toujours. Jean-Paul Sartre avait écrit Réflexion sur la question juive, 45 ou 46. 46, vous publiez Réflexion sur la question antisémite. C'est bien plus qu'un clin d'œil, c'est un contre-pied, parce que pour Sartre, il faut le rappeler, c'est le regard d'autrui qui fait le juif. C'est, le juif est un homme tenu pour juif par les autres, les non-juifs et les antisémites. Vous renversez la perspective en quelque sorte.
Oui, j'essaie de la renverser de deux manières. D'abord, parce que je pense, contrairement à Sartre, que c'est pas simplement le regard antisémite qui fait le juif, qu'il y a un judaïsme qui échappe à ce regard extérieur et à ce regard haineux, heureusement, même si je suis bien en peine de définir exactement ce qui fait le judaïsme et ce que ça veut dire d'être juif. Et puis je renverse la focale, parce que moi, ce qui m'intéresse dans ce moment des livres sur l'antisémitisme, il y en a eu beaucoup, bien entendu, d'un point de vue sociologique, politique, philosophique ou psychanalytique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller chercher du côté de l'exégèse, c'est-à-dire qu'est-ce que les rabbins, les commentateurs, les textes de la tradition ont eu à dire sur la haine que les juifs ont déclenchée à travers l'histoire. Alors ça peut sembler étonnant, parce que d'abord c'est jamais à la victime a priori d'expliquer le geste de son bourreau, ou de le justifier ou de le comprendre, mais je trouve que c'est intéressant de savoir qu'il y a près de 2000 ans, des commentateurs, des rabbins s'intéressent déjà aux raisons de cette haine et donnent des explications qui restent incroyablement pertinentes pour aujourd'hui. Et puis, ils ont, à travers cette analyse, les penseurs de la tradition juive, c'est comme s'ils avaient confié des clés aux générations suivantes en leur disant « Ne vous imaginez pas que vous y échapperez, parce que l'antisémitisme renaît, mute et sera toujours présent, mais voici des clés pour vous en relever. Voici des clés pour faire que vous ne soyez pas simplement les victimes passives de ce qui se passe, mais que vous ayez des clés comme de résilience pour rester acteur de votre histoire malgré ce qui vous frappe. »
Qu'est-ce qu'il y a de spécifique ? Pourquoi c'est différent du racisme en général, Delphine ?
Alors, il y a à mon sens un malentendu. Souvent, bien sûr, on lit le racisme et l'antisémitisme, et loin de moi l'idée de vouloir dire que l'un serait plus grave, ou plus ou moins perturbant que l'autre. Mais il y a une différence d'abord majeure, à mon sens, c'est que bien souvent, le racisme, c'est une façon de dire à l'autre qu'il est moins que moi. C'est-à-dire qu'on perçoit un autre comme moins par sa couleur de peau, son accent, son nom, comme un complexe de supériorité par rapport à cet autre qui représente un moins abouti que je ne le serais, un barbare d'une certaine manière. Alors que l'antisémitisme souvent se construit sur l'inverse. C'est-à-dire qu'on entend dans le discours antisémite traditionnellement une forme de complexe d'infériorité, cette idée que le juif aurait quelque chose que j'aurais dû avoir. Et que donc, par sa présence ou sa chance, ou son argent ou son contrôle, et que sais-je encore, eh bien, il m'aurait usurpé une place qui me reviendrait. Et donc, il y a comme une jalousie et une envie qui est omniprésente dans cette permanence de l'antisémitisme. On est persuadé que les juifs sont un peu plus ou ont un peu plus. Et donc, ça a beaucoup à voir avec une incapacité, à mon sens, de gérer les failles ou les faillites de nos existences. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas de notre point de vue, ce que nous devrions être, un raté dans la vie, un échec, une faillite, eh bien le juif devient très vite le nom de celui qui m'empêche, de celui qui perturbe mon schéma rêvé, d'une certaine manière. Et là, on voit très bien, du coup, comment ça marche main dans la main avec les théories du complot. Parce que les théories du complot, qui ont tellement le vent en poupe aujourd'hui dans notre société, racontent la même chose. Elles disent toujours que ce qui nous arrive, c'est pas vraiment de notre faute, c'est sans doute manipulé par une main invisible, qu'on a du mal à nommer, mais qui contrôle nos existences et qui nous rend comme totalement non responsables de ce à quoi on est confronté.
Vous liez ça aussi à une forme de virilité dans votre livre. Vous faites le lien entre l'antisémitisme et la misogynie. Expliquez-nous, Delphine Horvilleur.
Eh ben j'ai découvert en lisant beaucoup de textes antisémites ces derniers mois, c'est pas une lecture que je conseille particulièrement, que tout au long de l'histoire, il y a un lien très subtil et étrange entre la haine des juifs et la haine des femmes. On a toujours reproché aux juifs exactement ce qu'on reprochait aux femmes, c'est-à-dire d'être hystérique, d'aimer l'argent ou la proximité du pouvoir, d'être lascif. Enfin, on va retrouver ça tout au long de l'histoire. Il y a 1000 exemples de ça. Quand Léon Blum arrive au pouvoir dans les années 30, qu'est-ce qu'on lui reproche ? D'être un peu trop féminin, pas assez viril. Il y a toujours une problématique dans l'antisémitisme qui est liée au genre et à la sexualité. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, ces panneaux antisémites qu'on voit surgir aujourd'hui font référence toujours à des éléments de sexualité. On dit que Macron est là plutôt juif ou que sais-je encore. Enfin, ce sont ces panneaux qui apparaissent parfois dans nos rues. Et ça a été vrai à travers l'histoire, quelque chose de troublant. Par exemple, au Moyen-Âge, je sais que c'est surprenant, mais il y a toute une littérature antisémite qui croyait que les hommes juifs avaient des menstruations tous les mois, qu'ils avaient leurs règles, parce qu'on ne pouvait pas imaginer que le corps d'un homme juif soit complètement et pleinement viril. Et ça a à voir avec tout ce dont on parlait maintenant, c'est que le féminin, le judaïsme et le juif incarnent la porosité du monde, quelque chose de l'ordre de l'ouverture, de la faille, de ce qui nous menace dans nos familles, dans nos territoires ou dans nos identités, d'une forme de contamination par de l'autre. Lorsque, il y a quelques semaines de ça, un assassin entre dans la synagogue de Pittsburgh pour y assassiner ses fidèles aux États-Unis, qu'est-ce qu'il reproche aux juifs ? C'est intéressant. Je ne sais pas si c'est le mot. En tout cas, il dit qu'il veut tuer des juifs parce que les juifs sont en train de laisser les migrants entrer par caravane et envahir et infester le territoire américain. Donc vous voyez, c'est troublant. À nouveau, cet antisémitisme qu'on entend aujourd'hui a quelque chose à voir avec la peur de la contamination par de l'étrangeté.
Réflexion sur la question antisémite, ça vient de paraître chez Grasset. Merci beaucoup Delphine Horvilleur d'être venue nous en parler.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, la politique encore, mais sur un mode satirique, l'écrivain Patrick Rambaud nous présente Emmanuel le Magnifique, prince solitaire, qui a pris la vie dans les livres auprès des jésuites et des personnes âgées.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, c'est jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Hier soir à l'Elysée, Emmanuel Macron a partagé la galette, immense et traditionnelle galette, sans fèves, jamais de fèves, car on ne tire pas les rois dans la maison du président. Et pourtant, voici qu'apparaît Emmanuel le Magnifique, sous la plume de celui qui nous avait déjà raconté le règne de Nicolas Ier et celui de François IV, dit François le Petit. Bonjour Patrick Rambaud.
Bonjour.
Vous continuez donc à nous raconter nos monarques à la manière de Saint-Simon, du grand siècle, oui.
Si on veut. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le ton un petit peu vieillot exprès et noble et une situation qui ne l'est guère.
Absolument. C'est ça. J'ai l'impression que vous êtes raccord avec le moment parce que vous entendez tous ces commentaires depuis deux mois qui nous parlent de jacquerie ou qui font référence à l'ancien régime.
Oui, mais enfin bon, c'est très différent parce que c'est la première révolution électronique.
Ah oui.
Hein, et Macron était le premier président élu par l'électronique.
Pourquoi par l'électronique ?
C'est pas... Alors, comment a-t-il eu un parti, un faux parti d'ailleurs, un mouvement sur Internet ?
C'est vrai.
C'est le premier.
Des surnoms viennent sous votre plume dans ce livre, Notre prince chanceux, Notre coruscante majesté. Alors oui. Il faut dire que vous racontez la première année du règne d'Emmanuel, mais ça pourrait évoluer.
Oui, bien sûr, ça évolue forcément, puisque j'ai prévu déjà que le deuxième volume s'appelle Le temps des orages, oui. à la fin du livre, il y a ça. Donc évidemment, on voyait toutes les failles déjà dans la première partie, mais tout lui réussissait. Donc ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment et pourquoi tout lui réussissait, et de refaire un petit peu tout son parcours, et c'est comprendre sa mécanique.
Et cette première année du règne d'Emmanuel Ier, et sa personnalité aussi, C'est le récit d'une solitude, d'une très grande solitude.
C'est un enfant solitaire, ça existe, il y en a plein d'ailleurs. Et on a l'impression qu'il est fils unique alors qu'il a des frères et des sœurs. C'est très étrange comme personnage d'ailleurs. Il est très refermé. Et quand il avait, je sais pas, quand il avait 2 ans, moi, l'image m'a frappé parce que moi je cherche beaucoup à expliquer par les images.
Oui.
Quand il a 2 ans, il va dans la bibliothèque de son père, il prend un livre, et il met dedans un crayon comme marque-page, comme il a vu faire à son père.
Oui, alors qu'il ne sait,
alors
pas,
qu'il
lire,
sait pas lire.
Évidemment.
Mais il faisait semblant de lire. C'est-à-dire qu'il avait déjà compris à 2 ans les apparences.
Un mot sur votre technique de fabrication, Patrick Rambaud. Vous savez tout, vous lisez tout, vous épluchez tous les journaux, tous les jours, et tous les livres, ce qui fait que toutes les anecdotes sont vraies dans vos livres.
Ben, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit toute vraie, oui. Enfin, je sais pas. À moins qu'un menteur m'ait trompé horriblement, ce qui peut arriver, parce que maintenant, le mensonge est une chose extrêmement courante. Ouais. Donc, il faut se méfier tout de même.
Mais je me souviens que sous les règnes de Nicolas et de François, on apprenait dans vos livres, même quand on était un lecteur attentif comme je le suis, on apprenait beaucoup de choses.
Parce que je recherche les détails, même quand je fais des romans, ce qui m'intéresse sont les détails et les images.
Donc l'une des clés de la personnalité d'Emmanuel le Magnifique, écrivez-vous Patrick Rambaud, c'est son enfance. C'est un adolescent d'autrefois, plus passionné par les livres que par les jeux.
Oui, oui, parce qu'il a tout appris dans les livres. Après, cette histoire, il se met à lire très tôt. Bon, il commence à lire essentiellement des romans du 19e. C'était en 90, les années 90, je crois. Il est un peu décalé par rapport à son époque. Il n'est pas de son époque, il n'a jamais été de son époque. Parce que quand il avait 10 ans, 10, 15 ans, il écoutait Jacques Brel et Brassens et Ferré comme nous autres, nous l'écoutions dans les années 60. Et donc, il y a un décalage déjà, au départ.
Et il a grandi chez les jésuites, ce qui, à vos yeux, il a grandi. Il a été dans un collège,
un lycée jésuite, oui,
lycée à Amiens, la Providence, oui, à Amiens, bien connu.
Oui.
Qui ne dispense pas un enseignement religieux, mais vous dites que ça, mais la non, culture jésuite imprègne tout de même.
Il y a un état d'esprit jésuite quand même. Forcément, même s'il n'y a plus qu'une soutane dans les couloirs qui se promène au loin, mais il n'y en a pas dans chaque division, un abbé et tout ça, comme autrefois, comme dans les années 50. Mais l'esprit reste là.
Et la culture jésuite, c'est la culture, jésuite, et en même temps.
Et en même temps. Et le « et en même temps », moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais il était chez les jésuites. Ah oui, il était chez les jésuites, c'est normal. Il était chez les jésuites, comme on dit. Ben, c'est normal, alors. Parce qu'on est en même temps bienveillant et autoritaire. Ouais. Ce qu'il est, fondamentalement. Et tout le reste découle de là, pour moi. L'impression que j'ai eue en découvrant tout ça, c'est ça. Il reste jésuite, comme le pape. D'ailleurs, c'est le premier pape jésuite de l'histoire qu'on a en ce moment.
Absolument.
Donc on a un pape jésuite et un président jésuite.
Donc, à l'Élysée, aujourd'hui, il a, en quelque sorte, organisé sa solitude. Il y a très peu de personnages autour de lui dans ce livre, mais... par rapport aux deux règnes précédents. On voit le duc du Havre, Monsieur Philippe, ouais, évidemment, le duc de Pau, Bayrou, et puis c'est à peu près tout.
Et parce que c'est beaucoup plus compliqué à écrire ce volume que les 8 autres précédents. Parce qu'avant, il y avait des courtisans, il y avait quelques personnages, il y a un imbécile qui était là, qui se courbait dans les coins. Et là, on a l'impression qu'il n'y a personne. C'est-à-dire que dès qu'un personnage... moi, j'avais fait des dossiers sur Darmanin, sur tout ça, Blanquer. Je ne pensais pas pu m'en servir, parce que dès qu'ils sortent un peu, ou qu'ils font un grand titre, une couverture de journal, 8 jours après, ils ne sont plus là. Ils sont neutralisés, ils disparaissent, ils se vaporisent, je ne sais pas dans quoi, ni où. Et il est tout seul. Donc c'est un cas de solitude assez rare.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une cour...
Et donc c'est plus compliqué. La cour existe.
La cour est très réduite.
Elle existe forcément, mais elle est transparente. On ne les connaît pas et on s'en fout. C'est extraordinaire quand même.
Emmanuel le Magnifique, donc, qui pourrait devenir peut-être Emmanuel le Réprouvé. En tout cas, c'est un risque.
On ne sait pas très bien ce qui va devenir, mais on va voir.
Dans les prochains tomes de vos récits, Patrick Rambaud. Deux choses encore... puisque vous êtes là, est-ce que vous avez revu votre collègue du jury Goncourt, Éric-Emmanuel Schmitt, depuis que vous l'avez assassiné, oui, en 3 phrases dans une interview à l'Obs?
Oui, mais c'était pas exactement, c'était pas mon intention et c'était pas du tout ce que je voulais faire. Oui, j'ai revu Éric. Bon, je lui ai dit, je suis désolé, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ça a été un petit peu modifié, si je puis dire, à l'écriture. C'était redoutable et j'ai été terrifié en relisant ça. Et c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire une plaisanterie du genre sur « on est un peu Laurel et Hardy ». Ouais. Parce que lui, c'est vrai qu'il est, il est deux fois plus grand que moi, cinq fois plus large. Et lui, c'est, moi, je suis un peu gringalé à côté. Donc c'est Laurel et Hardy. Je voulais faire une astuce là-dessus. Mon astuce, c'est casser la gueule. Et le résultat est consternant.
Et puis, je voudrais citer...
Je voudrais qu'il le sache. Encore une fois, je le répète que ce n'est pas du tout mon intention.
Très bien. Et puis, je voudrais citer un de vos ouvrages que j'ai souvent à portée de main tellement il me réjouit. C'est le journalisme sans peine que vous aviez publié avec le regretté Michel-Antoine Burnier il y a plus de 20 ans pour fustiger les tics de langage, les clichés, les barbarismes qui polluent la langue et les papiers des journalistes. Ça, ce n'est pas arrangé depuis
Ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé parce qu'il y a plein de mots nouveaux qui apparaissent, qui sont redoutables, comme acté, par exemple, moi qui m'exaspère parce que ça remplace 40 verbes. Donc on essaie de réduire le vocabulaire, on y arrive très bien. Tout le monde dit acté. Mais même quand ça ne sert à rien, même qu'on peut l'enlever, ça marche très bien sans. Donc c'est des tas de mots qui sont des réducteurs terribles et qui nous approchent du jargon qu'on essaie de nous imposer en plus.
On fera une émission là-dessus si vous voulez bien, Patrick Rampeau. Oui. Merci d'être venu nous parler d'Emmanuel, le magnifique chronique d'un règne qui vient de paraître chez Grasset. Merci à vous.
Merci cher ami.
Dans 5 minutes, Mediapolis. Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Patrick Cohen.
Vos invités ce matin.
Mes invités ce matin. Pour une actualité qui n'est pas que répétitive, oui. Un politologue de talent que vous connaissez bien, qui s'appelle Jérôme Jaffré, et un philosophe co-inventeur de l'Université des Savoirs, Yves Michaud.
A tout de suite. Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.